20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On vient de l'apprendre, parmi la palette des 900 sons à notre disposition, le V et le F seraient apparus dans nos bouches au cours du Néolithique. Il y a plus de 8 millénaires, c'est du moins ce que propose une équipe de l'université de Zurich et des chercheurs du laboratoire dynamique du langage du CNRS. La première fois, c'est justement ce que nous propose Nicolas Tessandier, spécialiste d'Homo sapiens et qui a mené une réflexion sur la longue durée visant à éclairer les moteurs de l'évolution culturelle, sociale, économique tout au long de la préhistoire. Nicolas Tessandier, bonsoir.
Bonsoir.
Préhistorien, chargé de recherche au CNRS dans le laboratoire Traces de Toulouse, vous publiez Nos premières fois, paru aux éditions La Ville brûle. Ce que vous abordez, Nicolas Tessandier, c'est la question des origines.
Oui, bien sûr, avec Nos premières fois, l'idée était d'essayer de rendre compte de toute une foison de comportements qui se déroulent pendant la préhistoire, donc de pas se restreindre dans la durée, de pouvoir piocher un petit peu dans une liste à la Prévert hein, de ces premières fois qui ont fait l'homme, qui ont fait l'humanité, et d'aller derrière tout ça, essayer de décrypter quelques grands moteurs de l'évolution de ces sociétés.
Alors ce qui est drôle, c'est que vos exemples sont assez hétéroclites.
C'est presque du hasard en fait, hein. C'est une liste que j'ai fait un peu comme ça, en m'amusant quelque part, hein. J'ai brossé sur un cahier des premières fois qu'on pourrait évoquer, puis j'en ai choisi un certain nombre. Et le but, oui, était d'avoir des classiques, on parlera du feu, de l'outil, mais d'avoir aussi des choses plus originales.
N'est-ce pas aussi la place de l'innovation, nous dirions, nous, communément, du progrès, qui est ici en jeu, une innovation que les archéologues traquent et perçoivent quelquefois?
Bien sûr qu'on les perçoit. Alors le jeu de Nos premières fois, c'était aussi de dire qu'on n'attrape sans doute jamais la véritable première fois, hein, et que dans cette course un peu effrénée à la recherche du plus ancien dans chacune des facettes des comportements des sociétés de la préhistoire, on saisit des choses qui sont certainement déjà bien lancées, bien en place, qui ont déjà vraisemblablement évolué. Donc on ne sait jamais trop où on est dans le processus de l'invention, qu'on attrape sans doute jamais, du moins dans son sens premier, en archéologie.
Alors prenons quelques exemples dont on parlera juste brièvement. L'aiguille à chat, par exemple, typique d'une culture, le solutréen, on est vers 18 000 ans, une vraie innovation, ou un autre outil, une sorte de bâton qui sert à propulser des sagesses, qu'on appelle le propulseur. Voilà des sortes de machines très importantes pour vous, préhistoriens.
Alors l'aiguille à chat, c'est un exemple que j'aime bien parce que ça, c'est parlant aussi pour ancrer les sociétés de la préhistoire dans nos mondes contemporains et montrer qu'on en est bien issu, dans le sens où l'aiguille à chat, elle existe toujours. C'est un des outils qui n'a pas changé, un outil qui n'a finalement pas évolué, hormis sa matière, qui est aujourd'hui en métal, mais une aiguille à chat paléolithique est extrêmement semblable, voire identique aux aiguilles à chat qu'on manipule.
Pas tout à fait, parce qu'elle a un chat justement qui est plutôt ovale alors que les nôtres sont ronds. C'est ça, non? Souvent.
Il y a des petits détails, mais disons que l'analogie à travers le temps est frappante.
Le propulseur, une sorte de première machine?
Une sorte de première machine. Alors j'ai dans le chapitre sur la première machine, effectivement, je jongle entre le propulseur et l'arc. L'arc étant, à mon sens, véritablement une machine, dans le sens où on n'est plus simplement avec l'énergie du corps, on a véritablement une machine qui transforme la force humaine. Le propulseur, c'est simplement une élongation du bras par un système de levier, accroître la puissance et la taille du jet, mais il n'y a pas la nouvelle force qui est produite par l'élasticité de l'arc et la restitution du fil.
Reste le caractère fugace. Ces premiers instants paraissent particulièrement difficiles à mettre en évidence en archéologie, car par essence, il s'agit d'événements laissant peu de traces.
Oui, peu de traces, et puis on ne sait jamais quand on saisit une première fois archéologique ou la situer exactement dans ce qu'a été une forme de réalité préhistorique. On le voit avec les premiers outils. Les premiers outils ont reculé de 500 000 ans, peut-être, dans les 5 ou 10 dernières années. Les premières fois sont faites pour enfin, change et se transforme au fur et à mesure à la fois des découvertes et surtout aussi du progrès de nos connaissances en termes de datation, de datation physico-chimique. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas dater et dont on ne pouvait estimer l'âge il y a quelques temps et qui sont aujourd'hui plaçables dans une échelle chronologique. Donc on... Et après, c'est le jeu du hasard. Qu'est-ce qu'on saisit, nous, des premières fois de l'humanité? Voilà, c'est amené à changer en permanence. C'est un paysage qui est très mouvant. Donc, la première fois, c'est une quête vaine, quelque part.
Oui, on ne trouve pas la première fois. On trouve le plus vieux, en général. Ce qui est, pour le moment, le plus vieux.
Voilà, ce qui est, pour le moment, le plus vieux, avec, en plus, une course des chercheurs à vouloir avoir dans leur escarcelle le plus vieux comportement, qu'il soit symbolique, technique, artistique, etc. Donc il y a aussi une escalade, on va dire, dans la rapidité des changements de date en ce moment dans nos domaines, à la fois par le progrès technologique et le progrès de la science, mais aussi par une accélération de la volonté des chercheurs
à faire du scoop.
À faire du scoop et à trouver le plus vieux, oui.
La première fois, c'est bien entendu le premier outil, véritable point d'ancrage de la définition de l'homme.
On l'a pendant longtemps pensé. Alors bien sûr, il y a tout un tas de débats sur l'utilisation d'outils par les animaux, mais on voit bien que avec les premiers outils en pierre, on est quand même dans quelque chose de différent en termes de complexité de ce qu'ont pu produire les animaux. Pour l'instant, ces premières pierres taillées, elles sont datées de 3,3 millions d'années sur un site à côté des rives du lac Turkana, l'Omekwi.
Trouvé par une équipe française.
Trouvé par une équipe française, ouais, Sonia Armand notamment. Ce qui est intéressant avec l'outil, c'est qu'on va voir à partir des premières formes d'outils une forme de cumulation de progrès. C'est-à-dire que l'outil va n'avoir de cesse, une fois ses premiers outils connus et identifiés, va n'avoir de cesse d'évoluer dans le temps et on va voir tout un tas de connaissances qui s'accumulent et qui sont recombinées pour trouver une nouvelle forme d'outil à travers le temps. Et cette cumulation des connaissances semble être le propre des cultures humaines.
Il y a donc 3 300 000 ans. Reste la vraie question. Face à un problème, un individu a pris une pierre. Que s'est-il passé dans sa tête? Alors qu'on ne sait pas comment il pensait, justement.
Non, surtout que, pour le coup, les artisans de ces premiers outils, il y a 3,3 millions d'années, on ne sait pas qui ils sont. On ne sait même pas s'ils appartiennent au genre Homo et s'ils seraient classifiés comme appartenant au genre Homo par les anthropologues.
Dans le sens où c'est plus vieux que ça, voilà, même, oui.
Il y a 500 000 ans d'écart. Aujourd'hui, le premier représentant du genre Homo a quelque chose comme 2,8 millions d'années, 2 800 000 ans. Et les premiers outils ont 500 000 ans de plus. Ces outils n'ont pas été retrouvés associés à des vestiges humains, donc on n'a aucune idée. Certains pensent que ce seraient les Australopithèques, donc des représentants du genre de Lucie, pour citer la plus célèbre, ou de Littlefoot en Afrique du Sud. Donc des gens dont on ne connaît rien de la cognition, de leur façon de penser. Je veux dire, on ne peut pas avoir recours à nous, sapiens, comme source expérimentale pour essayer de savoir comment penser ces gens. Donc on peut décrire leur savoir technique, après aller savoir ce qui s'est passé dans leur tête pour inventer ces prodiges que vont être les pierres taillées qui vont accompagner l'évolution de l'homme pendant des millions d'années.
Mais d'ailleurs, le cognitif, on n'en sait rien non plus pour Néandertal, par exemple. On ne savait pas comment il pensait.
Non, on ne sait pas comment il pensait. Après, avec Néandertal, on a plus d'éléments, parce qu'on a autre chose que des pierres taillées. On a des campements de chasse, on a des comportements symboliques, on sait qu'ils enterraient leurs morts. Enfin, on va avoir, disons, un panel de données un peu plus important, largement plus important que ce qu'il en est pour les artisans des premiers outils taillés, où là, on a simplement ces quelques pierres taillées et c'est tout.
Alors, si l'outil n'est pas le propre de l'homme, qu'est-ce qui fait le caractère de l'homme, pour vous?
L'outil est quand même en constitue, à mon avis, un. Dans le sens cumulation de connaissances et évolution rapide des outillages, c'est-à-dire que les outils ne restent pas stables, et les outils vont être amenés à évoluer alors assez rapidement, sur des centaines de milliers d'années pour ces périodes très anciennes. Mais je pense que le côté de culture l'aspect culture cumulative me semble être un élément important dans la définition de l'homme au sens technique et comportemental du terme.
Alors, puisque on parle des outils, avançons un peu dans le temps. L'invention de l'outil, c'est aussi l'invention de la symétrie, et ça se fait quand même assez tôt, au travers d'un outil que l'on appelle le biface. Mais cette recherche de symétrie, elle semble relativement importante.
Oui, ça a un côté artificialisation du monde naturel, on va dire, la symétrie, quoi. C'est quelque chose qui est complètement artificiel. Effectivement, ça arrive assez tôt, hein. Les premiers bifaces en Afrique, on est vers 1,8 million d'années, 1,8 million à peu près. Voilà, quand on parlait du côté culture cumulative, bon ben sans les premiers outils taillés dont on a parlé à 3,3 millions, sans les premiers galets taillés il y a 2,6 millions, enfin il y a eu tout un tas de propriétés dans la taille de la pierre et dans le travail technique qui ont été découvertes et le biface, semble-t-il, n'aurait pas pu arriver avant ces étapes. Donc le biface est une étape dans l'évolution de l'intelligence humaine et de ce qu'on peut restituer dans l'évolution de cette intelligence à travers ces pierres taillées, qui nous permettent de dire beaucoup de choses. Par exemple, les bifaces, beaucoup pensent que ça a beaucoup à voir avec des processus d'apprentissage qui se sont nettement complexifiés. Certains évoquent même que pour enseigner la façon de faire un biface, il aurait fallu avoir une forme de discours accompagnant la démonstration du maître à l'élève, par exemple.
Justement, l'apprentissage, c'est, on va dire, la première leçon, et ça, c'est vraiment de la culture.
Ah oui, proprement.
C'est la transmission de la culture.
Voilà, ça, c'est la transmission de la culture, et pour le coup, c'est ce que, dans ce petit chapitre sur la première leçon, c'est d'essayer de montrer que par des travaux qui ont été faits en psychologie, des travaux qui ont été faits avec de l'expérimentation, c'est-à-dire avec des groupes qui ont travaillé à reproduire des objets taillés, notamment ces fameux bifaces, on s'est aperçu, notamment pour les bifaces, que quand il y avait deux groupes d'expérimentateurs avec un enseignant très expérimenté et que l'enseignant utilisait ou non la parole, un groupe, celui qui avait eu droit à la parole et aux explications où on montrait l'importance de telle et telle étape technique, où on les montrait mais où on les exprimait, ce groupe-là évoluait plus vite que l'autre groupe expérimental, ce qui fait dire à certains que ces artisans-là disposaient peut-être d'une forme de langage à articuler.
Qu'en est-il du feu du premier Prométhée?
Alors le premier feu, c'est aussi ça ne cesse d'évoluer en termes de chronologie. Celui qui est admis généralement, c'est autour de 800 000 ans sur un site en Israël, Gesher Benet Yaakov. Après, c'est très sur ce site-là, les éléments semblent tangibles. Sur d'autres sites en Afrique, ça a été annoncé à des dates même beaucoup plus anciennes, bien avant 1 million d'années. Mais il est très dur de faire la différence entre feu naturel et feu, et réelle domestication du feu, et non pas un passage du feu ou une récupération du feu de brousse, comme ça arrivait souvent sous ces latitudes-là. À 800 000 ans, ça semble là bien établi par différents indices sur ce site israélien. Oui.
Et puis on a des dates aussi en France, assez anciennes, 400 000 à peu près.
400 000 en France, ouais. Ce qui veut dire que si on en reste à 400 000, sachant qu'il y a eu du monde en Europe au moins à partir d'un million d'années, dans nos contrées, même avant, hein, en péninsule ibérique, en Géorgie, ce qui veut dire que quand même ces continents où il y avait des hivers rigoureux, où il y avait des gradients thermiques importants en fonction des saisons, ont pu être peuplés sans que les humains disposent de feu, ce qui pose quand même pas mal de questions en termes d'adaptation de ces populations sorties d'Afrique dans d'autres environnements plus rigoureux, sans maîtriser le feu. Mais bon, premier feu à 400 000 ans en Europe, mais il était peut-être connu avant. Enfin là, c'est toujours pareil, hein. On n'a que ce dont on dispose archéologiquement parlant.
J'ai bien sûr lu le chef-d'œuvre de Roy Lévis, Pourquoi j'ai mangé mon père, où il est bien sûr question du feu. Le feu, c'est une vraie révolution?
Ah oui, je pense que c'est une vraie révolution dans les modes, sur plein d'aspects. Mode de vie, ce que ça permet en termes techniques, éclairer la nuit.
Chauffer les silex.
Chauffer les silex plus tard pour accroître la qualité à la taille, mais aussi cuire les aliments. Et là, on parle de choses qui ont pu avoir des impacts sur la biologie même des populations en termes de. Enfin, on sait que la cuisson, que ça soit des tubercules ou de la viande, permet de disposer d'autres qualités nutritionnelles dans les aliments. Donc oui, vraie révolution dans plein de domaines et dans plein de domaines des modes de vie de ces populations.
Et sur l'aspect social aussi, sur l'aspect organisation de l'habitat.
Oui, tout à fait. On le voit bien ensuite, hein, au moins à partir des Néandertaliens et ensuite avec les Sapiens, que l'espace où était situé le feu venait structurer l'entité domestique des populations préhistoriques. Ouais.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
400, 500, 600 000 ans, voire plus d'un million, n'y a-t-il pas une compétition entre chercheurs? Le feu, on le suppose, on le présuppose, voilà, il y a une sorte de quête, une course à ce genre de sujet?
Ben oui, on est fasciné par les premières fois, donc on a toujours envie de savoir, comme nous on se demande comment on est arrivé sur Terre, ben, les scientifiques et les préhistoriens ont toujours envie de savoir où est l'origine, qui est souvent une quête vaine, mais où est l'origine de tel et tel comportement, telle facette des comportements, tel acte technique, telle innovation, invention. Donc il y a forcément une envie d'aller toujours plus loin dans le passé pour voir si telle invention qu'on pensait arriver à tel moment n'a pas été précédée par le long développement. Donc effectivement, la rapidité et la course à la publication aujourd'hui dans le monde dans lequel on est entré, de mondialisation de la recherche, font que il y a souvent une course vers le plus ancien, hein, qui est, je pense, un mot qui revient souvent dans les titres des articles, hein, the earliest ou
tout à fait, first evidence of.
Voilà, c'est les titres classiques et qui c'est plus facile de faire passer un article quand on a the first evidence of que de redire pour la énième fois que il y avait du feu au Paléolithique supérieur.
Et pourtant, rappelons surtout que l'évolution n'est pas une, mais elle est multiple. Ça ne se fait pas en un seul point. Le feu, on l'a inventé peut-être 100 fois, 200 fois, 1000 fois.
Oui, ça c'est important à rappeler. C'est vrai pour le feu, c'est vrai pour... On parlait des bifaces. Les bifaces ne sont pas sortis d'Afrique avec les populations. Les premiers bifaces ont 1 800 000 ans en Afrique et on va attendre plus d'un million d'années, largement plus même, hein, pour les retrouver en Europe, alors que les populations étaient sorties d'Afrique et s'étaient rendues en Europe, mais ont perdu vraisemblablement... Sur ces périodes très anciennes, c'est vraisemblablement la démographie qui est en cause, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'extinctions, il y a eu beaucoup d'extinctions de populations, et donc un groupe qui pouvait disposer de telle ou telle invention ou de telle dans ses bagages a pu s'éteindre, et ensuite un autre groupe indépendamment va réinventer que ce soit la symétrie, les bifaces dont on parlait, ou la façon de faire le feu. Donc oui, effectivement, c'est de multiples réinventions.
Le bon exemple, c'est peut-être l'agriculture. L'agriculture qui est inventée en quantité de points.
En quantité de points, oui. Et puis ça, là, pour le coup, c'est prouvé. Pour ceux dont on parlait avant, pour le feu et nos bifaces, c'est encore difficile de faire la part des choses avec l'agriculture. En plus, ce sont différentes espèces à chaque fois, selon les endroits du monde, différentes espèces végétales.
Et oui, le riz, animales, le blé, le maïs, voilà. La patate douce.
Donc là, c'est des faits tout à fait tangible. Indiscutables.
Partout en Afrique du Sud, à Blombo, ce petite grotte dominant l'océan Indien, un site où tout semble avoir été expérimenté.
Alors à Bloembos, on est sur un site effectivement d'Homo sapiens ancien. Hein. On est entre 100 000 et 70 000 ans peut-être avant le présent pour les couches d'occupation les plus importantes. Et effectivement, c'est une grotte qui a concentré ces 10-15 dernières années un certain nombre de découvertes inédites, des plus anciens outils en os, des plus anciennes ou parmi les plus anciennes parures, coquillages perforés, là ces petits Nassarius, ramassés sur les rivages et qui vont être perforés et portés en parure corporelle ou vestimentaire. On avait aussi les premières formes de gravures ou de tracés gravés sur un bloc d'ocre. On a une petite palette de peinture qui a été retrouvée ensuite plus récemment. Donc voilà un site qui concentre un certain nombre de premières fois, ou en tout cas de ce qu'on a pensé être les premières fois au moment où on les y a trouvées.
Alors comment se fait-il ? Ça paraît curieux quand même que tout soit là. C'est peut-être parce qu'on n'a pas assez fouillé ?
Oui, il faut se dire que l'Afrique du Sud, avant Bloembos, on n'en connaissait pas grand-chose de la préhistoire sud-africaine pour ces périodes d'Homo sapiens anciens, qu'on était resté très concentré en Europe. Donc il y a aussi un phénomène de, on parlait de mondialisation en termes de publication, mais il y a aussi la préhistoire, c'est aussi mondialisée en termes de lieux de découverte, hein, et de lieux où on travaille et on ouvre des contrées complètement nouvelles. Après, l'autre chose aussi, c'est qu'on dispose sur ces sites-là, effectivement, il y a des sites où on a un enregistrement archéologique, des strates empilées de plus en plus fines et qui viennent raconter une histoire sur plusieurs millénaires avec un niveau de conservation tout à fait remarquable. Ce qui est pas le, voilà, c'est des sites exceptionnels où on a des registres archéologiques tout à fait remarquables. Oui.
Qu'en est-il des premières migrations ? Ne sont-elles pas d'ailleurs intimement liées à toutes les espèces ? Pour nous, c'est bien entendu la sortie d'Afrique, l'Australie, où il y a d'ailleurs visiblement de nouveaux résultats, et puis enfin l'Amérique.
Oui, alors après, il faut démontrer une migration en archéologie préhistorique, c'est très compliqué, parce que l'homme est sorti d'Afrique il y a 2 millions d'années, à peu près, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on était dans un processus migratoire. Il suffisait que chaque génération bouge de 50 kilomètres par génération pour qu'au bout de quelques millénaires, on ait parcouru des milliers de kilomètres. Sans qu'on soit pour autant, on va plutôt parler de dispersion pour les formes d'Homo erectus, par exemple, que de migration au sens volontaire du terme, de groupes portés par aller vers tel ou tel endroit. L'Australie semble être différent, effectivement. Vous parliez de...
Oui, très beaux résultats viennent d'être publiés la semaine dernière.
Voilà, il y a eu une modélisation qui a été faite. On sait que l'Australie est peuplée uniquement par des Homo sapiens, hein, pas par les espèces précédentes. Depuis au moins, maintenant, on est sur des dates autour de 60-65 000 ans. Et cette étude, par une modélisation, montrerait qu'on serait sur une migration volontaire où il aurait fallu au moins 1500 à 1800 personnes, je crois, qui se seraient installées, enfin 1500 à 1800 pionniers en quelque sorte, qui se seraient installés. Donc là, on n'est plus sur quelque chose d'aléatoire. On semble bien être dans un mouvement migratoire de découverte d'un...
On est dans un projet.
Voilà.
Dans un vrai projet.
Quelque chose qui semble être guidé et bien réfléchi.
Nicolas Tessandier, première peinture, qu'est-ce que vous en pensez? C'est visiblement plus la grotte Chauvet française qui serait la pionnière, mais il faudrait partir à Bornéo.
Oui, on a des très beaux. Alors ça se joue sur pas l'écart chronologique est pas énorme, mais Bornéo est un peu plus ancien. Hein. On est autour de 40, 38 000 ans avant le présent. Chauvet est plutôt vers 36. Donc effectivement, on voit fleurir des choses sur lesquelles on était. Alors là, bien sûr, on a été tellement habitué à l'art qu'on appelle franco-cantabrique, hein, qui est très connu en Europe occidentale. L'art orné, que peu à peu, ben on a maintenant des témoignages dans l'Altaï, Bornéo vient de sortir, on a des choses en Australie qu'on connaissait peut-être nous préhistoriens ouest européens moins ou pas pour Bornéo vu que c'est une découverte tout à fait nouvelle. Après en Europe, il sort aussi des choses, certains ont proposé récemment que Homo sapiens ne soit pas le premier peintre mais qu'on ait eu des signes et des mains notamment recouvertes de calcite et dont les âges
en
datant la calcite, voilà, en Espagne, ont donné des âges fort anciens, beaucoup plus anciens que Chauvet. On serait autour de 60, 70 000 ans, voire peut-être plus. C'est encore très discuté. Certains collègues n'acceptent pas ces résultats et critiquent la méthode de datation de ces planchers ou de ces coulées de calcite. Mais le débat est en tout cas le mérite d'être ouvert. Et
qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, il s'agit d'un art abstrait, donc on n'est absolument pas sûr que ce soit pas naturel. Le tout est bien sûr calcité, mais voilà.
Moi, il n'y a rien qui me choque. La méthode semble être, pour ce que j'en comprends, hein, sans être physicien ou chimiste, semble être robuste. En tout cas, voilà, on n'est pas dans les mêmes procédés, on n'est pas sur les panneaux de Chauvet non plus, hein. on est sur des signes abstraits, sur des mains. Pour l'instant, ça ne remettrait pas en cause le fait que les premiers grands arts naturalistes et l'art figuratif seraient l'apanage et l'invention de Sapiens. Donc que Néandertal, dont on connaît toutes les réalisations et les facettes, que ce soit par sa complexité technique, on sait qu'il manipulait des symboles, hein, les griffes de rapaces, certaines formes de parures, l'enterrement des défunts. Donc que Néandertal ait pu avoir une forme d'expression, une autre forme d'expression symbolique que celle qu'on lui connaît déjà à travers l'utilisation de colorants, dont on sait qu'il les utilisait massivement sur ses sites, et qu'il ait pu la poser sur les parois. Bon, il n'y a rien de... Voilà, il faut continuer les recherches, mais ça ne me choque pas.
En tout cas, on connaît les errements des généticiens des années 1990 autour de la première Ève. Pour autant, peut-on évoquer le premier couple?
Le premier couple, c'est, voilà, j'en ai fait un petit chapitre aussi, mais c'était un peu pour, j'ai un peu tourné le sujet. C'était pour évoquer, en tout cas, des façons de faire famille sans doute différentes entre les Néandertaliens et les Sapiens.
Le vrai sujet, c'est l'exogamie ou l'endogamie.
Voilà. Donc c'était pour évoquer cette question-là, où effectivement on a des données chez les Néandertaliens sur un site qui s'appelle El Cidrón en Espagne, où on a pu faire des analyses paléogénétiques sur 12 individus, je crois, et où on s'aperçoit qu'en gros ces 12 individus se regroupent simplement en deux groupes familiaux, donc 5 ou 6 sont apparentés entre eux et 5 autres sont apparentés entre eux. Ce qui va bien avec ce qu'on connaît des Néandertaliens, petit territoire, utilisation des matières locales en termes de roches, etc. Donc on a l'impression de petits groupes relativement endogames. Alors qu'on sait maintenant pour le paléolithique supérieur qu'on a une vision archéologique très différente, dans le sens où là on a des approvisionnements à très longue distance avec Sapiens, de coquillages, de pierres, etc. Et où on sait sur un site, alors ce n'est qu'un site pour l'instant, mais qui s'appelle Soungir, très célèbre en Russie, hein, daté autour de 34-35 000 ans.
Dont on a parlé récemment.
Voilà. Et là, au contraire, on a des inhumés qui, quand ils sont analysés génétiquement, ne portent pas de traces de parenté entre eux et semblent venir donc de groupes, de tribus différentes les uns des autres. Donc donne une image du paléolithique supérieur et d'Homo sapiens en règle de parenté différente de celle des Néandertaliens.
Les drogues, voici un beau sujet et d'actualité, puisque des chercheurs du Max Planck viennent de découvrir du cannabis en Chine.
Oui, j'ai entendu. Voilà.
Les premières drogues, les premières fois?
Les premières fois, on a des choses relativement anciennes, hein, pour le pavot, au moins au néolithique.
En Espagne.
Voilà, donc là, il y a au moins 6 millénaires, je crois.
Papaver somniferum, de son nom latin.
Après, on a tout un panel de plantes qui ont été utilisées, mais pour l'instant, rien, en tout cas, pour ce qui est du paléolithique. Il faut vraiment, on est sur les sociétés agro-pastorales, pour les preuves. Après, il y a pu avoir usage de tout un tas de substances. C'est difficile de les retrouver, hein. Il faut que là, nos auditeurs aient en tête que quand on n'a pas de récipient et qu'on ne peut pas faire l'analyse des résidus des récipients, c'est très difficile de retrouver des restes végétaux qui pourraient documenter ce genre de pratique pour des sociétés anciennes du paléolithique.
En tout cas, pour le néolithique et en Espagne, le pavot, il était quand même coincé dans une dent d'un individu vieux de 7000 ans.
Ouais, ça c'est complètement c'est exceptionnel.
Le lait, voici un sujet qui n'a rien à voir avec notre émission d'archéologie. Et pourtant, le lait, c'est une révolution qui fut d'ailleurs très bien racontée par Cavalli-Sforza.
Oui, le lait, le livre se finit quasiment hein, sur le premier verre de lait. Après, le livre porte surtout sur les sociétés paléolithiques, mais à la fin, j'avais envie de trouver d'autres exemples. Donc, je suis allé un peu vers les mondes des agro-pasteurs, hein, de ces agriculteurs-éleveurs. Et effectivement, au paléolithique, on n'a aucune trace de consommation du lait. Et hormis le lait maternel, évidemment, parce qu'on est, on n'a pas d'animaux domestiques sur lesquels on pouvait le prélever. Le premier verre de lait, il est au néolithique, quelque part en Anatolie, vers la mer de Marmara. On est aux alentours du 9e millénaire avant notre ère. Et il semble, d'après les, donc là, on a à la fois des analyses de résidus, de contenants céramiques. Et ensuite des analyses archéozoologiques qui montrent des traitements du troupeau très particuliers avec des élevages exclusivement laitiers. Enfin, il semble que l'élevage se spécialise assez rapidement après son invention et qu'on ait assez rapidement des gestions de troupeaux différentes selon ce qu'on veut faire de l'utilisation de ces animaux.
Alors le lait, ce qui est important, c'est que normalement l'adulte ne le supporte pas et que là, nous allons pouvoir le boire parce que nous en avons la possibilité et cela va entraîner une véritable explosion démographique.
C'est fort possible, en tout cas, il est sûr que le lait n'est pas supporté même aujourd'hui hein, par toutes les populations à l'échelle de la planète. Hein. Il nous faut ce fameux lactase pour pouvoir assimiler les enzymes du lait qui sinon ne se digèrent pas. Ça a été fait de façon très inégale à la surface de la planète, hein, parce qu'encore aujourd'hui, on a des communautés entières, notamment en Afrique et en Asie, qui ne supportent pas le lait animal. Ça a dû entraîner des changements morphologiques chez les humains, vraisemblablement, hein, on peut le penser. Après, est-ce que c'est le lait ou le package plus global des inventions néolithiques qui ont constitué le boom démographique? La question est ouverte.
Nicolas Tessandier, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, Nos premières fois, publié donc aux éditions La Ville Brûle. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Stéphane Démon et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, cède la place à la grille d'été. L'été est bien entendu la saison des fouilles et nous vous donnons donc rendez-vous en septembre.